des polars et des notes.
Joie, danse, feu d'artifice et pirouette. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Évasion pour le 100e numéro mensuel de Des polars et des notes. Et oui, dis donc, Pierre-Yves, tu te rends compte. 100 tours ronds, 100 rendez-vous mensuels depuis le 16 septembre 2014. Voilà l'occasion idéale pour remercier notre public, mais également les écrivains, les maisons d'édition et l'ensemble des acteurs du livre qui y ont participé. Pour célébrer cet événement avec le faste qu'il mérite, nous avons invité une kyrielle de stars, des vrais, pas les ersatz actuels, le tout Hollywood du début des années 40, Bogart, Errol Flynn, Rita Hayworth, Vivien Leigh, Clark Gable, Jessica Ney, Bette Davis, Henry Fonda et bien d'autres. Et on débute illico avec un cow-boy d'opérette qui a mal fini. Ça s'appelle Florida, c'est de John Seeley et c'est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Et le livre a été traduit de l'anglais États-Unis par Mathilde Helleux. Alors on ne se refuse rien dans ce numéro d'exception, pas même une excursion à Miami. Miami en 1984, les années Reagan, déjà un piètre acteur, et sa copine Thatcher, qui inventait le néolibéralisme, piller les pauvres pour donner aux riches. C'était un peu les grands-parents de nos impayables technocrates au pouvoir aujourd'hui. Alors, 1984, la guerre froide se meurt, elle agonise lentement, et Bobby West, agent de la CIA, chargé de surveiller les réfugiés cubains afin d'éventuellement venir en aide à une tentative de renversement du régime castriste, gère de façon plus que maladroite une agence immobilière vendant des espaces de bureaux. Ses investissements se révèlent catastrophiques et il ne sait plus comment cacher la vérité sur sa banqueroute à son supérieur de l'agence de renseignement. Il accepte en désespoir de cause de blanchir 3 millions de dollars pour le compte d'un narcotrafiquant international. Et parce que Bobby West est divorcé et voit peu sa fille Holly, aussi se réjouit-il de l'avoir débarquée chez lui jusqu'à ce qu'Holly se tire avec un certain Kes boutonneux en embarquant tout le fric. Bobby West ainsi que son ex Isabella engagent un privé Falcon qui va se mettre à fouiner pour le plus grand déplaisir de l'espion. Alors Florida, sous une apparence parfois de comédie, sa balance sévère sans en avoir l'air, de noire vérité sur les moyens plus que louches de financement de la CIA en lutte contre les guérillas sud-américaines et sur ses activités illégales. Ce n'est plus un secret désormais qu'héroïne et cocaïne servaient à payer les contras nicaraguayens sans que ces sommes apparaissent dans les comptes. Un récit pied au plancher entre roman d'espionnage et polar de haut vol. John Seeley construit avec réalisme et précision chacun de ses personnages entre un rebondissement, un coup fourré et un flingage en règle. Mais en plus, c'est très très rigolo parfois. C'est un vrai grand plaisir de lecture que ce texte à l'écriture cinématographique décapante à l'acide. Un vrai grand plaisir de lecture que ce texte à l'écriture cinématographique décapant à l'acide, un paquet de poncifs. Un auteur à suivre sans hésiter. Et on s'écoute Duran Duran, Girls on Films.
Lights flashing out, it's so bright.
Le champ de vision de Wright Morris, qui est paru chez Christian Bourgois, éditeur, traduit de l'anglais États-Unis par Brice Mathieusson. Alors, ce livre est 65 ans après sa parution. Le voici enfin traduit. Il a été écrit par Wright Morris, qui est mort en 98 et qui est le créateur d'un genre littéraire très particulier qui s'appelle le phototexte. Ce genre se mêle dans un même récit fiction, autobiographie, reportage, description photographique des scènes dans leurs moindres détails. Alors, ce roman en particulier, Champ de Vision, a reçu le National Book Award en 1957. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. L'intrigue se déroule au Mexique, dans les travées d'une arène dans laquelle a lieu une corrida. Walter McKee, qui est natif du Nebraska, son épouse Loïs et son beau-père, quasi sourd et aveugle, Tom, y assistent. Dans le public, on trouve également le docteur Lehmann, qui est un psychanalyste d'origine allemande, en couple avec une de ses anciennes patientes, ainsi qu'un mystérieux personnage, un ancien dramaturge reconverti dans l'élevage de taureaux de combat, un homme qui fascine totalement McKee. Chacun aura droit à sa propre biographie, puis de donner son point de vue, de raconter une partie de sa vérité. Et l'auteur change de personnage comme un photographe change de focale pour embrasser la totalité d'un sujet. Et puis, il y a les détails. Alors là, c'est vraiment très particulier. Et les détails sont capitaux, ceux grâce auxquels Maurice donne de la profondeur à son récit. C'est peut-être une bouteille de soda avec laquelle on arrose le mufle du taureau, un pantalon, une toque de David Croquette ou une balle de baseball. Chacun de ces accessoires devient essentiel, devient révélateur. L'auteur raconte l'humanité qui l'entoure dans tous ses aspects, sous tous ses angles, sans concession et sans pitié. Les interactions entre les êtres, les petites lâchetés comme les grandes trahisons ou les jeux de l'amour et de la mort. Une œuvre clé de la littérature américaine préparant l'arrivée des Kerouac, Kesey et consorts. À lire absolument. Et puis on va s'écouter, il n'y a pas de musique, on va s'écouter Josh White, Hard Time Blues.
Went down home about a year ago. Things so bad, Lord, my heart was sore. Folks had nothing, was a sin and a shame. Everybody said hard time was a blame. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. Sun was a shining 14 days and no rain. Horn and plan was all in vain. Hard, hard times, Lord, all around. Meal barrels, empty crops burnt to the ground. Well, the great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. Skinny looking chillin' bellies poking out. That old pellegrin without a doubt. Old folk hanging round the cabin door. Ain't seen times as hard before. Well, the great God Almighty folks feeling bad, lost everything they ever had. The great God Almighty folks feeling bad, lost everything they ever had. I went to the boss at the commissary store. Folks all starving, please don't close your door. Want more food, a little more time to pay. Boss man laughed and walked away. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. Landlord coming round when the rent is due. You ain't got the money, take your home from you. Take your mule and horse, even take your cow.
Says, get over my land, you're no good, no how. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had.
La voici, la voilà, la pléiade de stars promise, direction Los Angeles, avec Hollywood s'en va en guerre, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Et si les Ricains n'étaient pas là, comme chantait l'autre, eh ben figurez-vous qu'ils ont failli ne pas l'être. Il s'en est fallu de peu. Peut-être d'un film anti-nazi, de la mobilisation de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs et d'actrices pour faire pencher la balance qui a longtemps été en faveur d'Adolphe et de ses sbires. Cet aspect peu connu de la Seconde Guerre mondiale sert de thème à l'excellent roman noir « Hollywood s'en va en guerre ». Son auteur, Olivier Barthe-Cabusson, va tout de suite nous en dire un peu plus sur cette histoire dans laquelle se bousculent les plus grandes stars de l'usine à rêve californienne. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors, au moment où commence le livre, Roosevelt se demander à ce qu'on réalise un film l'aidant à engager, à pousser ses électeurs, à engager les États-Unis dans la guerre. L'Amérique avait vraiment besoin des ressources d'Hollywood pour se décider à combattre Hitler en 1941 ?
Alors, l'Amérique, d'abord, est un pays qui est profondément isolationniste, voire pacifiste. Et on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale, le président Wilson avait été élu avec la promesse de ne pas partir en guerre. Et en fait, en 1917, il avait fallu l'incident du paquebot Lusitania qui avait été malencontreusement torpillé par un sous-marin allemand avec quelques résidents américains à son bord, et l'incident du télégramme Zimmermann qui était parti du ministre des Affaires étrangères allemand pour son homologue mexicain proposant une alliance pour récupérer les territoires anciens. Mais il avait fallu ce concours de circonstances pour entrer en guerre à l'époque. En 1941, on a un partisan de la guerre, hein, c'est Franklin Delano Roosevelt, mais il a perdu le soutien notamment des démocrates des États du Sud, et il est obligé de promulguer des lois de neutralité, et il n'arrive pas à faire entrer son pays en guerre. Mais Hollywood s'est mobilisé dès 1936, notamment patronné par la grande actrice Bette Davis, avait été fondée la Ligue Hollywood anti-nazi, qui publiait régulièrement les nouvelles anti-nazis d'Hollywood. Ils étaient allés porter une pétition au président Roosevelt en faveur de l'entrée en guerre des États-Unis. Et puis, bien évidemment, et c'est la réalité, ils ont commencé à faire des films. Alors, les plus connus qu'on a peut-être encore à l'esprit, enfin, si on est amateur ciné-club, c'est « To be or not to be » de Ernst Lubitsch, ou bien sûr « Le dictateur » de Charlie Chaplin. Mais c'est pas évident de faire des comédies, des films de gangsters, etc. Donc j'imagine qu'on va faire un film très sérieux pour faire basculer l'opinion publique, parce que le cinéma américain, c'est 80 millions de spectateurs par semaine dans les salles, avec les actualités, le film, voire même deux films. Seul concurrent, quoi, c'est la radio. Mais on connaît la force des images.
Donc, y a un film qui est un petit peu qui est mis sur pied avec un producteur qui fait pas partie des huit plus grandes maisons de Hollywood. Mais enfin, c'est pas grave. Il a déjà tourné avec la star absolue, celle qu'on lui accorde, c'est Lala, qui est vraiment la coqueluche du moment, et Errol Flynn, qui est un buveur de compétition. Et donc, ce film-là devrait effectivement marcher, mais ils ne sont pas au bout de leurs affaires, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie que ça se fasse.
Oui, effectivement, notamment, il y a un mouvement, alors ça va tout de suite résonner à nos oreilles, un mouvement fondé en octobre 1940 qui s'appelle America First.
Avec des casquettes rouges.
Qui a été rénové il n'y a pas très longtemps. Et ce mouvement America First, il est notamment patronné par le célèbre aviateur Charles Lindbergh. Alors, on a peut-être de la sympathie pour Lindbergh en tant qu'aviateur et pour l'enlèvement et le meurtre de son enfant, mais la suite est beaucoup moins glorieuse puisqu'il ne cache pas ses sympathies pro-nazis. Il reçoit en 1936 des mains de Göring la médaille de l'aigle germanique qu'il refuse de rendre même à la demande du président Roosevelt. Un mouvement qui a beaucoup d'écho dans le pays, qui est rejoint par beaucoup de républicains, donc toujours intemporalité. Et il y a une espèce de focalisation tout de suite sur Hollywood. Hollywood, c'est l'ennemi parce que Hollywood est toujours très en avance sur les mœurs de son temps, sur les engagements politiques. Et donc, Arrow sur Hollywood et sur ce film qu'on a eu la prudence chez Roosevelt de confier à un producteur suédois pour ne pas être taxé de judaïté, puisqu'il y a aussi cette problématique antisémite qui est prégnante tout le long du roman, parce que les États-Unis, c'est aussi le pays du KKK, le Ku Klux Klan, donc il y a un terreau quand même assez fertile pour des idées de race inférieure, race supérieure.
À noter que, d'ailleurs que le code, le statut des Juifs en Allemagne a été copié sur les lois de Jim Crow qui étaient aux États-Unis, dans les États du Sud. Et que les nazis ont trouvé que ces lois étaient un peu dures et qu'ils les ont adoucies. C'est pour donner une idée. Donc vous expliquez très bien aussi pourquoi les grandes maisons de production étaient aux mains de personnalités d'origine juive. Mais l'industrie du cinéma donc est largement... Et Lindquist, lui, c'est un peu par accident. Donc c'est pas très important. Mais voilà. Lala, elle est obligée tout de suite de faire appel à une détective privée. Alors là, c'est un personnage extraordinaire. C'est Vicky Malone. Parce qu'on l'a fait chanter avec des photos qui ont été volées lors d'une fête.
Voilà, donc cette fameuse Lana Lass, dite Lala, et bon, on est vraiment dans le début du roman, je pense en page 3 ou 4,
ouais.
Où il y a ce premier rendez-vous, donc, où Vicky Malone, qui est, elle est fille de, alors, elle est fille adoptée d'un scénariste d'Hollywood, elle est détective privée, elle est assez singulière, en fait, c'est un Philippe Marlowe à l'inversé, hein, d'ailleurs, Marlowe, Malone, j'ai un peu joué avec les lettres, mais bon, Marlowe est un homme, c'est une femme. Marlowe est plutôt homophobe, comme l'était Chandler.
Elle est homosexuelle.
Elle est homosexuelle. Marlowe boit du whisky, elle préfère les cocktails, etc. Bon, après, on retrouve dans l'archétype du détective privé américain, cette insolence un peu gouailleuse, cette détermination un peu désabusée et ce très grand engagement pour son client ou sa cliente.
Mais vous avez fait un film en noir et blanc. Moi tout le long de votre bouquin, là, quand je l'ai lu, moi, j'avais une musique de jazz, j'avais du saxo et de la trompette dans l'oreille, j'avais Mike Hammer, c'est incroyable.
Oui, mais d'ailleurs, j'écris en musique et donc j'avais ma playlist et notamment il y avait du Miles Davis, etc. Et j'ai passé un an en noir et blanc, à voir des films en noir et blanc, à voir des fonds d'écran en noir et blanc, etc. Et de penser en noir et blanc. Et Vicky Malone, voilà, c'est un personnage qu'on retrouvera parce que je suis tellement attaché. Je le dis sans prétention, mais pour moi c'est un personnage iconique qu'on peut adorer à mon avis.
Bah, ça ferait une superbe série HBO.
Oui, oui, oui.
Alors là, moi, je la regarde demain. Et donc, c'est une grande séductrice aussi, Vicky, pareil que Marlowe. Elle vit un petit peu, elle séduit Sibyl, qui est une ouvreuse de cinéma. Et elle ramasse comme les autres, elle ramasse des nions, il y a des balles qui sifflent à ses oreilles, il y a des meurtres. Enfin, votre bouquin, c'est vraiment, vraiment un polar. Hein. Il y a pas, il y a des accidents sur le tournage, mais c'est vraiment l'univers impitoyable, c'est pire que Dallas.
Voilà, c'est du hard-boiled. L'école hard-boiled du polar de d'Achille Lamette, Raymond Chandler.
Vous leur dédiez le bouquin d'ailleurs.
Et vous avez parlé de Mike Hammer, hein, et également. Enfin voilà, on est dans cette ambiance noire, je dirais, de romantisme noir teinté d'anarchisme, hein, qui est un petit peu propre, à mon avis, à la figure emblématique du détective, ou plutôt maintenant de la détective privée américaine.
Mais ça m'a un peu rappelé Perry Mason aussi. Il y a un petit peu de ça. Parallèlement, comme on est aux États-Unis, bien sûr, il y a un pasteur. Il y a un pasteur dingue de Jésus, l'église du Seigneur revenu, qui est Louis Miller, qui est vraiment un personnage louche, trouble, qui est fantastique.
Voilà, c'est vraiment un évangéliste. Je voulais décrire l'Amérique avec, bon, ses deux côtes, Est et Ouest, un peu plus européanisé, un peu plus évolué, un peu plus libéré, quoique. La ceinture biblique, etc. Et puis bon, ben, ce mélange effectivement d'America First, d'évangélisme. Les États-Unis, c'est un pays où on met toujours la main sur la Bible pour jurer. Et ces évangélistes, ils sont commencé à faire leur apparition à la radio. Alors, c'est les années 20. Donne une fourchette pour pas dire de bêtises entre 1926 et 1929, et tout comme la France de l'époque, etc. On était, les États-Unis le sont toujours à certains égards, mais dans un pays très très religieux, et c'était d'autant plus intéressant d'avoir un pasteur évangéliste très très rigoriste, très inquiétant, très menaçant. Parce que Vicky Malone, de par son statut de lesbienne, elle est toujours sur le fil du rasoir, parce que c'est un délit, on va en prison.
Et oui.
Voilà, ça apportait, je pense, beaucoup d'incertitude au sort et de tension par rapport au personnage de Vicky Malone.
D'autant plus qu'elle est soutenue un petit peu par Arkell, qui est un personnage qui fait partie du FBI. Mais dont elle n'est pas tout à fait sûre, et c'est tout. En fait, tout le monde se méfie de tout le monde, hein, là-dedans.
Oui, il vaut mieux.
Ouais.
Comme l'ont prouvé des films et des romans comme Le Faucon de Malte.
Ouais.
Effectivement, le personnage d'Arkell, je pense. Alors c'est un ancien officier des commandos avec une certaine brutalité qui va avec, mais une certaine profondeur également. Et bon, il y a un duo verbal, en tout cas, assez réjouissant, assez jouissif entre lui et Vicky Malone.
Mais il est intelligent, il est intelligent, il reconnaît la valeur de Vicky, même s'il n'est pas d'accord sur sa vie dissolue.
Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup bourlingué, qui a une ouverture d'esprit et qui juge pas du tout. Hein. On voit à travers la liaison de Vicky avec l'ouvreuse Sibyl, il y a pas de jugement de son côté.
D'ailleurs, pour finir, il y a une chose très importante parce que c'est en tête de tous les chapitres de votre livre, c'est le fameux code A, qui est la bible des réalisateurs, c'est la censure.
Incontournable code S, parce que effectivement. Si l'on repart dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 20, on a un cinéma hollywoodien extrêmement en avance sur son époque. On voit des Cléopâtres à demi-nues vautrées sur des lits de fourrure, etc. Des trucs impensables. Ça se fait, ça, on laisse faire, etc. Et puis, il y a un vent de révolte, et notamment catholique. Il y a Mae West qui tourne un film « Ce n'est pas un péché » comme titre, et ils vont défiler devant avec des pancartes « Si !» point d'exclamation. Et on commence, des villes commencent à interdire tel ou tel film, etc. Et Hollywood, les producteurs d'Hollywood sont très intelligents aussi. Et ils voient très vite le danger, d'autant plus qu'ils sentent qu'il y a une préparation d'une loi de censure, comme les États-Unis peuvent faire très brutalement. Rappelons-nous un petit repère en arrière, la prohibition. C'est quand même 1919 à 1933, je crois,
oui.
Une loi brutale qui interdit toute vente et consommation. Voilà. Donc, il y a une loi très brutale qui peut se faire pour censurer le cinéma. Ils prennent les devants, ils vont chercher un ministre presbytérien, William Hess, insoupçonnable de probité, pour rédiger le fameux code Hess, qui sera un peu les grands principes qu'il faut respecter quand on tourne un film. Cela dit, William Hess est rémunéré 150 000 dollars par an par les studios d'Hollywood, et donc dans un premier temps, on arrive à s'arranger avec William Hess, et puis il va être un peu lui-même dépassé par sa hiérarchie.
Sa créature.
Et effectivement, le code S est appliqué beaucoup plus sévèrement. Et bon, alors bien sûr, il ne faut pas filmer en dessous de la ceinture.
Ouais, tout, ça, tout est décrit dans votre roman, en fait.
Voilà.
Moi, j'invite les auditeurs, bien sûr, à le lire, parce qu'ils vont découvrir le code ACE et tout le reste, parce que vraiment, il se passe des choses. Une fois que vous l'avez ouvert, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est vraiment un formidable roman. Merci beaucoup, Olivier Barthe-Capuzon. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « Hollywood s'en va en guerre ». C'est paru chez Gallimard, dans la série noire. Et une fois n'est pas coutume, pour la première fois, parce que c'est la centième aujourd'hui, je vais vous livrer la fin de l'histoire d'un polar. En fait, les USA vont faire la guerre. Alors ça, je suis désolé, mais j'étais obligé de le faire.
Excellent.
Merci beaucoup.
Excellente conclusion. Merci à vous.
On se quitte avec The Andrews Sister.
Ah bah, c'est d'époque.
C'est dans votre bouquin.
Bon choix, c'était dans ma playlist.
Ouais, by Mir Bisdouchen.
Ah oui, ah bah, c'est la meilleure.
Ah bah alors. Merci beaucoup.
Merci à vous.
You, I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, bist du schön, please let me explain. By me, bist du schön, means you're grand. By me, bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven der bar. Each language only helps me tell you how grand you are. You've heard it all before, but let me try to explain. By me a bis du schön means that you're grand. By me a bis du schön, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven der bar, each language on.
Un petit tour à Lisbonne maintenant avec la grande pagode de Miguel Szymanski qui est paru chez Agulo Édition dans la collection Agulo Noir qui a été traduit du portugais bien évidemment par Daniel Mathias. Alors nous en avions déjà parlé l'an dernier, j'avais adoré Château de Cartes, le premier volet des enquêtes du journaliste d'investigation portugais Marcelo Silva. Des investigations dans les milieux bancaires et politiques, des enquêtes si périlleuses que celui-ci a dû se réfugier à Berlin pour se faire oublier quelque temps. Aujourd'hui, c'est un yacht grandiose qui mouille à Lisbonne, un navire appartenant à un milliardaire chinois, à bord duquel se déroule une fête fastueuse à laquelle participe la ministre Lucia Salvador. L'affaire est d'importance puisqu'après la cure d'austérité terrible imposée par l'Europe au Portugal, le pays à genoux économiquement et socialement se vend à la découpe au plus offrant. Les États-Unis sont sur le rang, mais ce sont les Chinois qui l'ont importé et vont récupérer tout ce qui a encore un peu de valeur au Portugal. Un peu la France. Un accord totalement déséquilibré pour les Lusitaniens est sur le point d'être signé malgré la résistance d'un groupuscule écologiste Climax. Vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu, que certains paieront cher cette forfaiture et que d'autres chercheront à en profiter, à tel point que Marcelo Silva va devoir se résoudre à quitter son refuge pour mettre son nez dans un imbroglio où il est bien difficile de savoir qui manipule et qui est manipulé. Hyper réaliste sur les méthodes employées par la finance pour spolier les États, sur la corruption des gouvernements néolibéraux vendant le bien commun pour le transformer en bien privé, Szymanski, l'âme sombre, ne fait aucun cadeau à ses compatriotes, ni surtout aux politiciens qui bradent le pays. L'intrigue est certes complexe, part dans plusieurs directions et il est préférable, à mon avis, d'avoir lu le premier volet avant d'entrer dans la grande pagode. Mais ce roman mérite grandement toute notre attention. Il y est décrit ni plus ni moins que ce qui se met en place partout en Europe. Et nous sommes concernés au premier chef. Nos aéroports et nos industries de pointe ont déjà été vendus à l'encan. Du très très bon polar aussi déprimant que la réalité. Alors pareil, il n'y a pas de musique. Alors on va s'écouter quand même un groupe de rock portugais. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Os Alice. Et qui chante Diabo na Mão.
Por mais que tenhas razão, eu não estou cá para te ouvir. Tens o diabo na mão, caminho a seguir. Tudo o que eu quero ser, tu não tens que seguir. Ouviste em primeira mão, que eu não vou repetir. Se nem te dignas a ver, então não passa a sentar. E nem te atrevas a ouvir quando eu não estiver a olhar. O ritmo nunca parou, tal como eu nunca parei. O ritmo nunca parou, tal como eu nunca parei. Por mais que tenhas razão, calou, calou. Esta noite tens o diabo na mão. 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 A corda está para esticar, consente e cala uma vez. Mais vale um rato na mão do que três a falar. Primeiro não és ninguém e nunca chegaste a ser. Se isto não vai a bem, alguém vai ter que perder. Eu não estou cá para te ouvir. Tens o diabo na mão. Por mais que tenhas razão, tens o diabo na mão. Eu não estou cá para te ouvir. Tens um caminho a seguir. Eu não estou cá para te ouvir. Tens um caminho a seguir. Esta noite tens o diabo na mão. 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 Esta noite tens o diabo. Esta noite tens o diabo. tens o diabo na mão.
Un soir, entre chien et loup, une jetée, la mère agitée, des bourrasques, un enfant qui court et son père à la traîne. Un accident, voilà, c'est ça, un accident banal, terrible, marquant définitivement des vies. Cette triste histoire, malheureusement pas si rare, devient, sous la plume de Fabrice Tassel, un formidable roman. On dirait des hommes, qui est paru à la Manufacture des Livres. C'est un texte tout en simplicité et émotion, un texte qui va voir derrière les apparences au plus profond des êtres et débusque les non-dits les plus secrets de tous ceux qui sont de près ou de loin mêlés à ce fait divers. Bonjour Fabrice Tassel.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors on dirait des hommes débute par un drame, hein. La mort du petit Gabriel, 10 ans. Vous nous racontez un peu les circonstances ?
Oui, tout à fait. Moi, souvent, quand je réfléchis à un livre, j'aime bien réfléchir d'abord à une thématique, à un propos, parce que je crois que les romans, même si bien sûr le plus important est l'histoire et sont les personnages, c'est important de se dire qu'est-ce que je veux raconter, quel propos je veux porter. Et là, moi, je tournais autour de l'idée du courage des hommes. Des hommes avec un petit H, c'est-à-dire nous. C'était un petit peu l'idée autour de laquelle je tournais. Et puis un jour, j'ai lu une brève dans un journal, je ne me souviens plus lequel, mais qui racontait justement un fait divers tout à fait similaire d'un homme qui avait sauté dans la mer pour essayer de sauver son fils. Je m'en suis pas inspiré directement, mais disons que la rencontre entre cette lecture qui, je ne sais pas pourquoi, m'est restée dans la tête. Enfin, je me suis imaginé, moi, en tant que père également, vivre la scène, et je me suis dit, mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe dans un tel moment? Ça doit être absolument vertigineux. Voilà la rencontre entre la lecture de cette brève et ma thématique qui me trottait dans la tête autour du courage des hommes. Les deux se sont rencontrés, et là, ça a été le point de départ du livre. C'est là que ça a commencé à prendre forme plus précisément, et c'est là que je me suis lancé.
Donc, quand le livre est centré sur tout, ça fait un an que le petit Gabriel est mort. Oui. Le dossier va être clôturé. C'est un accident. Voilà, il y a rien de spécial. Les Sénéchal, donc les parents de l'enfant, Thomas et Anna, ont porté plainte, mais n'ont pas non plus fait le forcing pour que celle-ci avance. Ils sont pas. N'attendent rien.
Oui, voilà. Ils sont d'abord, quand on les retrouve au début du livre, ils sont. Bien sûr, d'abord dans leur deuil, ils ont quitté la ville où ils vivaient avant, une grande ville. Et puis, ils se sont installés en Bretagne. Je n'ai pas situé plus précisément les choses, mais ils sont en Bretagne. Donc, ils sont d'abord en train de faire face à ce drame absolu. Et même un an après, ils sont en train de d'abord penser à eux, à essayer de se reconstruire. Donc effectivement, ils n'ont pas fait, comme vous dites, le forcing. Il y a eu le dossier est entre les mains d'une juge. Ils ne s'en préoccupent pas spécialement. Parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Mais elle, la juge, c'est une juge qui est tout à fait passionnée par son métier. Elle s'appelle Dominique Bonté, une juge expérimentée qui a beaucoup d'empathie pour toutes les personnes qu'elle voit défiler dans son cabinet et qui est très consciencieuse et qui se dit c'est un accident, mais il faut bel et bien que je rende une ordonnance de clôture. Que j'écrive un document qui marque la fin de cette histoire. Donc on va avoir cette histoire qui va se dérouler au temps présent. Et en fait, pour raconter un peu plus dans le détail les personnalités de Thomas, donc le père de cet enfant et de son épouse Anna, à un moment j'ai eu l'idée de glisser. En alternance avec les récits.
Il y a presque deux romans, ouais.
Oui, voilà, c'est ça. C'était la construction, en fait, de glisser 10 chapitres, voilà, qui scandent à la fois la vie de Gabi, puisque le petit garçon qui est mort, puisqu'il avait 10 ans, mais qui sont aussi des chapitres qui nous permettent, enfin, je l'espère, en tout cas, qui permettent au lecteur, petit à petit, de découvrir la personnalité des parents, surtout de Thomas.
Surtout
de
Thomas, oui.
Et voilà, puisque oui, puisqu'on est sur le courage des hommes, voilà, c'est ça. Et puis, il y a une montée en puissance, on commence à rencontrer aussi, plus le livre avance, on commence à découvrir de plus en plus précisément également Anna. Donc voilà, il y a une, comme vous dites, un peu de roman, un rythme. Ça m'a beaucoup aidé dans le rythme de l'écriture, de faire ces allers-retours entre des chapitres du passé et des chapitres du présent. Et puis, c'était aussi les 10 années de la vie de Gabi. Ce sont aussi les 10 années entre 30 et 40 ans pour Thomas et Anna. Parce que je trouve que, je pense qu'on en a tous fait un peu l'expérience, mais je trouve que c'est une décennie qui est vraiment très très importante dans la vie. Oui. Parce que voilà, c'est à la fois la découverte souvent du premier amour, en tout cas de la première grande histoire qui nous emmènera plus loin dans la vie. C'est la décision de faire un enfant ou pas, ou plusieurs d'ailleurs. C'est aussi les premiers choix professionnels importants. Donc voilà, ça m'a permis de raconter ce couple et principalement Thomas et de raconter la progression de leur vie avec un petit peu en sous-texte aussi l'idée de, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme tel, mais finalement, qu'est-ce qu'on maîtrise dans notre destin, qu'est-ce qu'on maîtrise dans notre vie, ce qui me permet aussi de
exactement
toujours cette idée qui était un peu mon obsession, cette idée du courage.
Et de faire très attention.
Il faut du courage dans la vie pour bâtir son destin, bâtir son parcours.
Et de faire très attention avant de prendre de juger. Et il y a presque un troisième roman, c'est celui de Dominique Bontet, qui est le personnage de ce roman, qui est presque un deus ex machina, mais elle est d'une minutie absolue, et en même temps, elle a un petit côté rebelle, parce qu'elle est pressée par le procureur adjoint Giffard de clore le dossier. Et elle prend un malin plaisir, presque, sans vouloir se l'avouer tout à fait, en disant qu'elle va le rédiger, mais elle prend un malin plaisir à faire traîner. Et elle a le courage d'aller voir jusqu'au bout des choses. Anna a le courage d'aller voir jusqu'au bout des choses. Et en même temps, elle traite une affaire de violence conjugale. Et tout ça se mêle un petit peu.
Oui, c'était mon idée. Moi, j'aime bien les romans où... Enfin, je trouve qu'un bon roman, c'est un roman où il y a une fluidité, où le récit n'est pas heurté, où on peut glisser d'un personnage à un autre en se demandant parfois longtemps, mais finalement, où est-ce que l'auteur m'emmène ? Et puis, de réaliser petit à petit que finalement, ils sont tous reliés par un fil qui peut être un petit peu mystérieux pendant une partie du livre, et puis qui, à la fin, s'éclaire. Bon, il y a un autre auteur breton bien meilleur que moi, bien plus prestigieux, c'est Tanguy Viel, que j'adore, ouais. le Brestois Tanguy Viel.
L'article,
L353, voilà, Paris-Brest aussi. Il avait fait,
ouais.
Je trouve que c'est un auteur qui m'a toujours beaucoup inspiré par sa capacité comme ça à naviguer dans son texte. On se dit, mais où va-t-il ? Et puis, j'avoue que je m'en suis clairement inspiré pour la fin de mon livre. J'aime bien les livres qui s'éclairent dans les dernières pages.
Twist, il y a un twist. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis même jusqu'au dernier mot. Et ça, j'aime bien les livres qui fonctionnent comme ça. Et puis, d'ailleurs, la construction que j'évoquais un petit peu avant, à un moment, elle m'a permis de vraiment savoir exactement où j'allais à la fin. Je l'ai écrit relativement vite, enfin, en 11 mois, ce qui est assez rapide, sachant que ce n'est pas mon métier principal. Moi, je suis journaliste et mon gagne-pain ne me laisse pas beaucoup de temps pour écrire des romans. Mais ça m'a beaucoup aidé de savoir exactement à un moment comment j'allais finir le livre, jusqu'à même connaître, bien avant de l'écrire, la dernière phrase. Et voilà, je pense que tout ça, tout ce que j'évoquais avant, la construction et tout, m'ont m'a permis de tisser ce lien un peu entre tous les personnages, parce que oui, le courage les relie tous, l'attitude, comme vous le pointiez, assez différente justement par rapport au destin des hommes et des femmes. Tous les hommes dans ce roman, d'où le titre d'ailleurs, ont bien de la peine à construire leur vie, à être courageux, à être lucides sur eux-mêmes. Tandis que petit à petit, plus le livre avance, plus on voit apparaître un groupe de personnages féminins qui, lui, globalement,
va jusqu'au bout.
Ouais, voilà, c'est ça, va jusqu'au bout des choses. Et comme vous le pointiez avec justesse, la chef de file, c'est Dominique Bonté, parce que voilà, c'est un dossier banal, comme elle en a plein sur son bureau.
Ah, elle aurait pu l'expédier, hein.
Ah, elle aurait pu refermer tout ça. Mais c'est aussi un peu une manière de raconter la justice ordinaire. Je pense que
oui.
Nos concitoyens mesurent tellement bien et eux-mêmes dans leur vie, pour ceux qui ont des affaires à faire la justice, la lenteur, les pesanteurs, les procédures bâclées, les procédures qui sont menées trop vite. Et là, je voulais aussi, comme pour rattraper un peu cette institution qui est quand même une belle institution, et qui souvent est occupé par des gens tout à fait passionnants. Enfin, moi, dans ma vie professionnelle, j'en ai rencontré pas mal, des magistrats, et souvent, ce sont des gens remarquables qui doivent faire avec les moyens du bord aussi. Mais voilà, donc je voulais faire un peu un contre-personnage qui soit une juge, un peu la juge parfaite, entre guillemets, voilà, qui a ce dossier banal, mais qui a une intuition, et puis la volonté de réparer les choses et de faire la procédure la plus honnête possible à l'égard de ses parents qui, pense-t-elle, ont vécu le pire. Perdre un enfant, je crois que dans la vie...
En fait, ce qui se passe, c'est que Dominique Bonté, elle veut clore le dossier. Enfin, Chiffard l'ennuie tous les matins avec ça. Donc, elle fait un truc tout bête. Elle entend une dernière fois Thomas. Et c'est ce qui va déclencher... raconter l'histoire, etc., ce qui va tout remettre en cause. Thomas, lui, le soir de l'accident, quand il a vu le gamin tomber dans l'eau, il a sauté, il a nagé, il n'a jamais pu le rattraper, il y avait des grosses vagues, etc. Et Thomas, on apprend petit à petit à le connaître, on s'aperçoit qu'il a une vision de lui-même qui est un petit peu faussée. Mais comment vous, en deux mots, comment vous le définiriez? Parce qu'il y a Anna, par un moment, qui l'appelle mon héros inutile. C'est une phrase, c'est terrible, et c'est à la fois terrible et très beau. Et puis il y a Dominique Bonté qui le sent pas, qui est confronté au mari de son autre affaire là, qui lui apparaît comme un gros jojo, un gros dur, et qui en fait n'est qu'un minable. Et ce qu'elle aimerait bien, c'est trouver un mec qui soit un vrai mec, quoi, la juge qui a été jusqu'au bout un homme. Oui, et Thomas, par contre, il est très puéril.
Thomas, c'est ça?
Oui, tout tourne autour de lui.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un type, je pense qu'au final, il n'est pas, comment dire, il peut avoir des côtés attachants. Ce n'est pas foncièrement un mauvais type, mais c'est un type qui a deux gros problèmes, je dirais. C'est qu'il a une forme d'amertume, justement, qui pointe... comme ça, un peu à la moitié de sa vie, vers 40 ans, il a une grosse amertume parce qu'il se dit qu'il n'a pas maîtrisé grand-chose dans son parcours. Il a certes rencontré Anna, mais ensuite un enfant, ça s'est fait un petit peu comme ça, plutôt à l'initiative de sa femme. Et même s'il l'aime, il est quand même un peu, au fil des années, un petit peu... parfois un peu embarrassé par ce gamin, quoi, qui l'empêche de faire plein d'autres choses. Son métier, il est commercial, il a navigué dans plusieurs boîtes. Il est malin, il se débrouille, mais il n'est quand même pas tout à fait passionné par ce qu'il fait.
Il n'est pas super honnête non plus.
Pas super honnête non plus, exactement, tout à fait. Et voilà, et au fil du temps, il se dit que ce n'est quand même pas un bilan terrible, y compris sur le plan professionnel. Et puis, en plus, tout ça a été ponctué par ce drame absolu. Donc finalement, c'est un type qui vit beaucoup dans le mensonge. C'est peut-être une dimension, pardon, sur laquelle je n'ai pas insisté au cours du début de notre entretien. C'est un type qui a un gros problème avec la vérité, avec le mensonge. Il réussit à se débrouiller.
Dans le mensonge ou dans le fantasme?
Je
ne sais pas si à la fin il n'y croit pas, hein, ces trucs.
Bonne question. Il essaie un paf. Je dirais que les deux se tiennent un peu, quoi. Il essaie vraiment de se raconter aussi des histoires, de s'inventer un peu.
On dirait, c'est pour ça que je dis puéril, on dirait un gosse qui dit on dirait que.
Ouais, mais c'est très juste, c'est très juste. Il a un côté immature, il est un côté immature dans la vie, voilà, parce que il a pas, il sait bien que c'est pas terrible tout ce qu'il a fait, que beaucoup de choses lui sont imputables, hein, au manque de travail, manque de conviction, manque de courage, quoi, tout
manque
simplement.
De courage, il ouais.
Ça, et en même temps, il faut bien qu'il s'arrange avec la réalité, et il faut bien aussi qu'il s'arrange avec. Avec toutes les réalités de l'histoire, y compris autour du pire, de ce qui lui est arrivé. Et l'autre personnage, effectivement, auquel vous faisiez allusion, Patrice Le Bihan, lui, j'ai vraiment voulu le dessiner comme étant un type là qui pour le coup est très très différent de Thomas, parce que c'est un là, lui, il n'y a pas tellement d'histoire de mensonges.
Non. C'est un lâche.
Voilà, c'est plutôt un pauvre type, très lâche, il le sait très bien et il fait payer tout cela à sa famille.
C'est pas un hasard s'il s'appelle Le Bihan, ça veut dire le petit en breton.
Voilà, exactement. Voilà.
On voit bien vos origines.
Voilà. Voilà, donc lui, il est peut-être un peu moins en nuance comme personnage, mais il sert bien de contrepoint. Puis ça m'importait aussi de
traiter... Il dessine Thomas en creux, en fait.
Voilà, exactement, tout à fait. C'est exactement ça.
C'est un vrai tour de force. C'est que les deux histoires se dessinent en creux.
Ouais, voilà. Et puis donc, Dominique est à la jonction de ces deux hommes. C'est vrai qu'elle a deux profils très différents. Bon, pour l'un, pour Patrice Le Bihan, elle voit très clairement et vite à qui elle a affaire. Pour Thomas, qui au début lui semble très, très différent de Patrice et voilà, un père qui a perdu son fils, je le répète, c'est quand même quelque chose de... Elle en a parfaitement conscience, mais petit à petit, elle va quand même comprendre que c'est pas aussi simple que ça.
Et non.
Et effectivement, naviguer entre les deux hommes, entre les deux couples, du coup, parce qu'il y a aussi Iris, la femme de Patrice Le Bihan, qui est un personnage, là aussi...
Important.
Important, courageux, qui veut s'en sortir et qui va réussir à nouer une forme d'alliance avec Anna sans trop rentrer dans les détails, au final d'avoir les deux histoires qui s'éclairent l'une l'autre.
Eh ben merci beaucoup Fabrice Tassel. On va, je rappelle le titre de votre ouvrage, On dirait des hommes, qui est paru à la Manufacture de Livres. C'est vraiment formidable. C'est une histoire ordinaire. Il faut absolument lire ça. La morale, peut-être, moi, je pense qu'on pourrait dire que la vérité n'est pas forcément une victoire. Et on se quitte en écoutant Barbara, Mon enfance.
Merci encore. Au revoir.
Merci et au revoir.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent. Et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'ambre. Et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce. L'arbre m'a redonné des forces. Remontant de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux. Je crois que j'ai prié un peu. Je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose. J'ai voulu voir la maison. Sous les roses, j'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme un source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là. D'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes pâles années perdues. Oh mes 15 ans, mes mères réveillent, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés. C'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas. chercher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attirez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Où dort à jamais mon enfant?
Une chasse au trésor maintenant, La Chouette d'or d'Isabelle Maillot, qui est parue aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. On termine avec une histoire vraie mais traitée de façon un tantinet loufoque et réellement très drôle par Isabelle Maillot, La Chouette d'or, qui est parue aux éditions Gallimard. En 1993, Max Valentin, ça c'est vrai, publicitaire français, fait paraître un livre comportant quelques indices permettant de résoudre une énigme supposée réelle à propos d'une chouette en bronze qu'il aurait enterrée. Celui ou celle qui découvrirait le volatile se verrait alors remettre une statuette identique, mais en or. Une foule de chasseurs de trésors, bien plus nombreuses qu'escomptées par l'auteur, se met alors à tenter sa chance partout au travers le monde. Enfin, ça devient un phénomène complètement dingue. Bien des années plus tard, alors que l'affaire est plus ou moins oubliée, Beto, un jeune Péruvien, suspecté 20 ans plus tôt d'avoir résolu l'énigme et découvert la chouette, apparaît chez Claudia, une journaliste genevoise. Celle-ci, à l'époque, avait rencontré Beto pour son journal, la presse s'étant fait l'écho de l'engouement pour ce mystère. Là où ça se complique, c'est que son rédacteur en chef appelle Claudia pour l'informer que ce même Beto était assassiné à Barcelone au moment même où il lui est apparu. Ni une ni deux, Claudia lâche tout, marie enfant Genève et part en Colombie sur les traces du Beto quantique, à la fois mort et vivant. Ce qui lui permet, entre autres aventures, un peu dingue, elle croise une foule de personnages vraiment singuliers, de revoir un amour de jeunesse et de se questionner sur le sens de sa vie, des choix passés et du temps qui fuit. À lire au second degré, ce roman du temps qui passe, des sentiments et des émotions perdues, vous fera passer un très agréable moment. Pas de musique, alors on en profite pour glisser un clin d'œil aux éboueurs à la pointe de la lutte contre la réforme des retraites. On va s'écouter The Trashmen, Surfing Bird. Il y a une question d'oiseau quand même.
Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, everybody's heard about the bird. Ma 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 ma
Ce sera tout pour aujourd'hui. La centième, c'est fini. Le mois prochain, nous ferons enfin ce qui nous plaira, puisqu'on sera en mai. Ce ne sera pas trop tôt. Le temps va être meilleur pour les manifs. Allez, ce n'est pas parce que vous venez de vous faire voler 2 années de vie qu'il faut faire la tête. On vous dit que c'est pour votre bien. À très très vite. Bye bye.
Des polars et des notes.